franceinter.fr.
Permis de penser, bonjour à toutes et à tous. Dans quel récit national nous inscrivons-nous en ces temps où nous nous sentons sans repère et fragilisés par la répétition des attentats terroristes? Que veut dire frontière dans une Europe qui en reconstruit pour se protéger entre guillemets des réfugiés? Frontière extérieure, frontière intérieure? La révélation il y a quelques années de frontières intérieures qui n'avait plus rien à voir avec les limites de notre territoire, et depuis longtemps une certitude. Dans combien de France vivons-nous? L'appartenance à la citoyenneté est-elle la même selon la couleur de peau et son origine? De qui est-on l'étranger? Comment fonctionnent les pratiques discriminatoires? Les principes mêmes de la démocratie fonctionnent-ils bien? Comment entretenir la paix publique? Autant de thèmes, autant de questions que nous aborderons avec nos deux invités, Pierre Joxe, magistrat, ancien ministre de l'Intérieur et de la Défense de François Mitterrand, membre du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, aujourd'hui avocat auprès des mineurs faisant l'objet de procédures judiciaires, auteur de nombreux ouvrages, notamment « Cas de conscience, pas de quartier, soif de justice », et Didier Fassin, sociologue, anthropologue, professeur à l'Institut d'études avancées de Princeton, auteur de nombreux ouvrages, La force de l'ordre, L'ombre du monde, ou encore Jugé, réprimé et accompagné. Et comme chaque semaine, nous commencerons par une archive. Nous avons choisi Michel Foucault. C'était en mars 1975.
Le système pénal, tel qu'il fonctionne, n'est absolument pas accepté. Il n'est ni accepté par ceux sur qui il pèse, mais il n'est pas accepté non plus par les autres. C'est vraiment un appareil administratif que la conscience sociale n'a absolument pas intégré et assimilé depuis 150 ans, 175 ans maintenant qu'il existe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la consigne a été non plus quelques grands supplices éclatants, tout le monde doit effectivement être puni de façon systématique, que chaque crime soit effectivement puni, à partir de ce moment-là, il a fallu que la justice se double d'une institution nouvelle qui était la police. Or, la police, elle, pour savoir la vérité, ben, vous savez parfaitement qu'elle utilise, et de plus en plus, des moyens qui sont des moyens violents. La police supplicie. L'armée, quand elle fait des tâches de police, comme ça a été le cas en Algérie, sous le commandement de Massu ou de l'actuel ministre Bizarre, l'armée a effectivement supplicié. Donc vous avez eu un déplacement fonctionnel du supplice, vous n'avez pas eu disparition du supplice dans notre société.
France Inter, permis de penser, Laure Adler.
Alors déjà, votre réaction à cette archive qui date de 1975, est-ce que le système pénal fonctionne mieux aujourd'hui, au printemps 2016, Pierre Joxe?
Mieux qu'en 75 en France. D'abord, le système pénal, il est transformé par quelque chose qui n'est pas propre à la France. C'est l'apparition très lente et pour la première fois d'une condamnation d'une justice internationale. Je crois que c'est un élément très important de réflexion, d'abord à examiner. C'est que pendant très longtemps, l'idée d'une justice pénale internationale, c'est-à-dire de la possibilité de condamner à prison, par exemple, non pas à partir d'un pouvoir d'État, mais à partir d'une institution internationale. Quand j'étais étudiant en droit, il y a très longtemps, c'était un rêve de quelques professeurs fumeux. Aujourd'hui, ça existe, dans des conditions, on en parle aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas longtemps, condamner ce criminel serbe à des dizaines d'années de prison, c'est une innovation. Alors, à l'autre bout, le système en France, il fonctionne moyennement, plutôt mieux que dans la plupart des pays du monde où il n'y a pas de justice, plutôt moins bien que dans la plupart des pays d'Europe où le système judiciaire est beaucoup mieux traité, ne serait-ce que par exemple en Allemagne, le budget de la justice est le double de celui de la France. Donc. Mais de là à suivre Foucault qui explique que la police a remplacé des supplices et que la caractéristique de la police, c'est qu'elle supplicie pour arriver à obtenir la vérité, ça demande au moins quelques nuances, mais c'est très intéressant, c'est un raccourci fascinant.
Didier Fassin.
Ce qui est intéressant, c'est de penser que Michel Foucault faisait cette déclaration en 1975, qui est le moment où va commencer véritablement le processus de, on pourrait dire, de pénalisation de la société, c'est-à-dire une évolution vers un emprisonnement de plus en plus large. Pensons que les chiffres aujourd'hui de le nombre de personnes qui se trouvent incarcérées est 2,5 fois plus élevé qu'il n'était à l'époque où cette déclaration a été faite. Donc on peut dire que notre société, par rapport au moment où de cette déclaration tonitruante, notre société est devenue beaucoup plus sévère. Plus sévère, ça veut dire principalement deux choses. D'abord qu'on s'est mis à criminaliser des actes qui ne l'étaient pas auparavant. Pensons à la conduite après suspension de son permis par perte de ses points, qui représente aujourd'hui 1 entrée sur 10 dans les établissements pénitentiaires. Pensons à des simples délits de consommation et de détention de cannabis, sans même revente, qui représente à peu près aussi 1 personne sur 10 qui entre en prison. Ce sont des actes qui n'étaient pas criminalisés auparavant. Criminalisation, donc, et en même temps, alourdissement des peines. Donc, on a un système qui est devenu plus sévère. La question qu'on peut se poser, c'est, il est devenu plus sévère, est-il pour autant plus juste? À la limite, il pourrait être plus sévère pour tout le monde. Or, ce qu'il apparaît, c'est qu'il est devenu plus sévère, mais en même temps, en devenant plus inégalitaire, en pénalisant plus lourdement certains délits par rapport à d'autres. Pensons que entre 2002 et 2012, donc les années, disons-le clairement, où Nicolas Sarkozy a été d'abord ministre de l'Intérieur, puis président de la République, des années où il y a eu une augmentation très importante de la population écrouée et incarcérée, eh bien, on a une augmentation de 400% des condamnations pour délits de conduite après suspension de permis. On a une diminution de 29% des délits économiques et financiers. Donc, on voit bien qu'il y a des choix qui sont faits par... Alors, on peut dire par le gouvernement, on peut dire par les juges, mais on peut dire aussi par la société dans son ensemble qui détermine ce qui va peser le plus lourd dans cette sévérité.
Alors, nous reviendrons sur ce bilan de la justice aujourd'hui, mais je voudrais connaître votre avis à tous les deux. Comment on fait par rapport aux menaces du terrorisme? Vous êtes en train d'analyser les dysfonctionnements de notre justice, mais il y a une nouvelle donne. Pas seulement l'internationalisation de la justice et le tribunal pénal international, mais aussi le terrorisme. Est-ce que notre police et notre justice sont-elles armées aujourd'hui pour pouvoir endiguer, prévenir ce flux qui n'a pas l'air de se tarir des attentats terroristes? Pierre Jox.
Même si Valls récemment encore a expliqué que réfléchir aux causes historiques, sociologiques du terrorisme, de toute forme de criminalité, c'est déjà l'excuser. Il est évident qu'il faut réfléchir aux origines, aux racines de ce terrorisme djihadiste qui s'est développé depuis quelques années.
Didier,
si on n'y réfléchit pas, on ne peut rien comprendre. Et si on pense que c'est la réplique policière, judiciaire ou militaire qui va régler le problème, on est sûr de se tromper. Donc je pense que c'est une réflexion pas seulement sur les moyens, parce que en ce qui concerne la police française, heureusement, elle ne torture pas régulièrement, Foucault était quand même un peu exagéré, la police française a beaucoup progressé en formation. Moi, j'avais créé une direction de la formation au ministère de l'Intérieur, j'ai développé la police scientifique. Le rôle de la police devant la criminalité, c'est d'apporter des preuves. Et quand on arrive à amener un criminel ou un présumé criminel, un suspect, devant le juge, c'est très important. Pourquoi? Parce que pour tous les autres candidats au crime, c'est un moyen de réflexion. Ils sont pas sûrs. Ceux qui sont décidés à mourir et qui vont se faire exploser, ils sont très difficiles à convaincre. Mais beaucoup d'autres, peut-être qu'il y en a en ce moment, qui circulent, vont réfléchir. Ça, c'est une chose. La police et la justice jouent un rôle. Est-ce que les moyens militaires qui sont mis provisoirement au service de la police sont suffisants? Il y a toujours eu des périodes où on employait quelques militaires pour monter la garde à la Tour Eiffel. Là, on le développe à des conditions considérables. Mais à terme, le problème n'est ni militaire, ni policier, ni judiciaire. Il est politique. L'origine de tout ça, on le sait...
Politique ou sociale?
Il est politique et donc social, c'est-à-dire l'histoire. Très peu de Français savent que la Syrie, que la France avait un mandat de la SDN pour amener la Syrie, quand l'Empire ottoman en 1919 a été démantibulé, très peu de Français savent que la France avait un mandat de la Société des Nations pour amener la Syrie à la démocratie. Très peu de Français savent qu'en Syrie, les militaires français, à l'ordre du gouvernement, ont bombardé les patriotes syriens à Damas. Très peu de Français savent que l'échec de la décolonisation a été au moins aussi grave que les crimes de la colonisation. Et que par conséquent, notre rapport au monde arabe, au monde arabo-musulman, il est marqué par une histoire. Et cette histoire, il faut la connaître, il faut l'analyser pour qu'un jour, en effet, comme je pense, ça aura lieu, une réconciliation aura lieu. Mais elle n'aura pas lieu tant qu'on aura la tentation en France, comme ça a été le cas avec l'affaire de déchéance de nationalité, de rétablir une division entre les Français d'origine et les Français de naturalisation qu'on a connue, nous, à un moment, à l'envers. Pendant la guerre d'Algérie, moi j'étais officier pendant la guerre d'Algérie, il y avait quelque chose qui nous choquait énormément. C'était pas seulement les pratiques de torture, de massue du gouvernement, etc. C'était la distinction entre les FSE et les FSNA.
Il y avait les Français.
Oui, vous êtes trop jeune. Les Français de souche européenne et les Français de souche nord-africaine. Il y avait 10 millions d'Algériens qui étaient de souche nord-africaine. Ils élisaient pas plus de députés, autant que le million de Français d'Algérie qui élisaient des députés. Il y avait une inégalité institutionnelle. C'était le système colonial qui se rattachait aussi, d'une certaine façon, au code de l'indigénat, le code de l'indigénat. Donc l'inégalité introduite dans la loi, c'est une tradition française très ancienne. Et l'idée de la déchéance de nationalité qui ne visait statistiquement que 80% des Français d'origine maghrébine, africaine ou musulmane, a été un coup terrible, psychologiquement.
Alors Didier Fassin, que fait-on par rapport au fonctionnement de la justice et de la police, par rapport à cette menace du terrorisme qui se concrétise de plus en plus ?
Je crois que c'est une discussion qui a très peu de choses à voir avec la discussion précédente, c'est-à-dire que...
Quoique...
Très peu de choses quand même, c'est-à-dire que... par rapport au terrorisme, bien sûr, la police a un rôle à jouer, mais c'est plutôt celle du renseignement que celle qui va harceler des jeunes en faisant des contrôles d'identité répétés et des fouilles dans des conditions qui sont souvent assez... assez humiliante et pénible, en tout cas discriminatoire.
Bah, il en faudrait peut-être moins qui harcèlent les jeunes et plus pour les renseignements.
Bah, Je suis mal placé pour juger la qualité des services de renseignement, mais en tout cas, c'est bien de ce côté-là quand même que l'action contre le terrorisme, le suivi de ce qu'on appelle les djihadistes, c'est bien de ce côté-là que ça doit se passer. De la même façon, la justice, c'est pas tous ces jeunes dont parlait Pierre Jox qui passent en comparution immédiate qui sont les terroristes de demain. Là encore, ce sont des services particuliers de la justice qui font des enquêtes sur ces questions de terrorisme. Donc je pense que ce sont deux questions qui sont très différentes, qui néanmoins, comme vous le suggériez, peuvent avoir une certaine intersection, c'est-à-dire que les discriminations dont beaucoup de jeunes se sentent victimes, à la fois par leurs conditions de vie quotidienne, par leur rapport avec la police et la justice, évidemment, ça ne constitue pas un terreau favorable à se sentir intégré dans la société française, et donc à un moment donné, pour certains, très faible majorité, mais prendre des voies qui sont violentes. Et de la même façon, la justice, en enfermant de plus en plus de gens, pour la grande majorité des hommes jeunes, et comme je le disais tout à l'heure, pour beaucoup, pour des délits qui ne sont pas des délits considérables, eh bien, évidemment, ça participe de ces processus d'exclusion, des difficultés de retrouver du travail, de se trouver impliqué dans des réseaux criminels, mafieux, voire djihadistes.
Donc, et la prison est une bonne recruteuse.
Alors, c'est une bonne recruteuse. Ça n'est même pas évident, si vous voulez. Ce qui est quand même intéressant par rapport ce que commentait Pierre Jox tout à l'heure, et ce que vous disiez aussi, je crois, sur un Premier ministre qui nous demande de ne pas essayer de comprendre les phénomènes, hein, puisque, alors bien sûr, avec des tas de contradictions...
Comprendre, c'est excuser, a-t-il
dit. Et avec évidemment des tas de contradictions, puisque un jour il nous dit que c'est l'apartheid, Donc ça ressemble un tout petit peu quand même à une explication, qui d'ailleurs est tout à fait inacceptable. Il n'y a rien d'apartheid en France, il y a une ségrégation, mais il n'y a pas d'apartheid. Un autre jour, il nous dit que c'est le religieux, donc c'est les salafistes. Est-ce que tous les salafistes deviennent des terroristes ou des djihadistes? Ça n'a pas de sens. Puis un jour, il nous dit qu'il ne faut pas comprendre, parce que sinon, on arrive à excuser. Donc, si on prend le cas des djihadistes, eh bien, on a des explications qui sont complètement différentes, qui nous sont données par des supposés experts pratiquement quotidiennement. Donc un jour, on nous dit que c'est dans les mosquées. Le lendemain, on nous dit que c'est dans les prisons. Le troisième jour, on nous dit surtout pas, c'est sur Internet. Et en fait, ce qu'il faudrait, bien sûr, ces experts ont tout à fait leur place dans le débat, et on a besoin de leurs avis. Mais il faudrait justement commencer à complexifier un tout petit peu les phénomènes et pas être en permanence dans des alternatives. On pourrait penser, par exemple, puisqu'on parlait, et le Premier ministre lui-même le faisait, de ce qu'il appelle, comme son prédécesseur malheureusement, Lionel Jospin, d'excuses sociologiques. On pourrait avoir une pensée sociologique sur ces questions et, par exemple...
Mais c'est ce que vous faites depuis des années, Didier Fassin. Notamment avec les nouvelles frontières françaises où vous déterminez déjà depuis une bonne quinzaine d'années une ségrégation sociale, politique, ethnique.
Alors, tout à fait, mais on peut prendre des approches plus dynamiques, par exemple celles qui ont été développées depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans en sociologie, qui sont des études des carrières déviantes. Comment devient-on déviant? Alors, on peut devenir déviant en attaquant des banques ou en commettant des petits délits. On peut devenir déviant aussi en prenant d'autres voies, y compris celle du terrorisme. Il ne s'agit pas de les mettre sur le même plan, mais en tout cas, il y a des analyses là qui peuvent nous servir, c'est-à-dire que lorsqu'on s'est intéressé aux carrières déviantes, eh bien on s'est aperçu qu'il y avait de multiples phénomènes qui jouaient et qu'il fallait essayer de comprendre et voir comment ils s'articulaient. Qu'il y a des facteurs structurels, par exemple les situations d'exclusion, de ségrégation, de discrimination, etc. Et donc on peut essayer de lutter contre ces facteurs, mais on sait bien que toutes les personnes ségrégées et discriminées ne vont pas commettre des délits ou des actes terroristes. On sait qu'il y a également des facteurs qu'on appelle environnementaux ou écologiques, qui sont le milieu dans lequel on est. Et si on est dans un milieu où il y a justement beaucoup de gens qui cherchent à faire du prosélytisme, par exemple, dans le cas qui nous intéresse, eh bien, ça va être un facteur favorisant. Et là aussi, la question, c'est peut-être de s'intéresser à ce prosélytisme, mais aussi d'éviter ces ségrégations qui font que les mêmes personnes se retrouvent dans les mêmes quartiers. Et puis ensuite, il y a des parcours individuels qu'il s'agit alors là, à ce moment-là, d'étudier de façon plus fine, de comprendre et de pas tout de suite vouloir généraliser avec une seule explication, une explication simple, dont on peut remarquer que ces explications, pratiquement toujours, visent à disculper, à écarter la responsabilité de la société française, des gouvernements successifs, etc. Donc, revenir aussi bien, comme le rappelait Pierre Jox tout à l'heure, à l'histoire des politiques étrangères, coloniales d'abord, depuis les accords Sykes-Picot auxquels vous faisiez allusion, jusqu'aujourd'hui, l'intervention en Libye, la guerre en Afghanistan et en Irak, etc., qui ont déstabilisé complètement le Moyen-Orient et une partie de l'Afrique du Nord. Il faut réfléchir à ça, non pas pour se battre la coupe, mais au moins pour essayer de comprendre ces phénomènes-là. Et puis, en termes de politique intérieure, voir comment les phénomènes de discrimination contribuent à exclure, les phénomènes de ségrégation produisent du communautarisme et non pas le communautarisme qui serait au départ là. Donc, on inverse tous les phénomènes, on veut les simplifier et on veut les unifier, lorsqu'il faudrait justement qu'on ait une pensée, non pas d'excuses, mais de réflexion, et de réflexion y compris de nos responsabilités collectives.
Permis de penser sur France Inter, Laure Adler.
Alors, prison, mosquée, internet, si vous étiez ministre de l'Intérieur, Pierre Jox, ça vous est déjà arrivé aujourd'hui, que feriez-vous par rapport au terrorisme?
J'ai connu le terrorisme d'Action Directe, de la Salah, de l'Arménie, on a connu des attentats terroristes nombreux, importants. Il n'y avait jamais autant de morts. Et jamais autant de morts d'un coup que dans l'horrible tuerie du Bataclan. On avait des services de renseignement, et Fassin a raison, avant tout c'est le renseignement. Si la justice est aveugle, si la police n'a pas les moyens de suivre, on est très désarmé devant des gens qui sont prêts à mourir. Mais Encore une fois, il faut commencer par la réflexion. Certains pensent que c'est l'islam. Ça les arrange. Mais de même qu'il n'y a pas eu en France d'apartheid, que la ségrégation ou la discrimination, ce n'est pas encore la ségrégation. La ségrégation, c'est la discrimination inscrite dans le sol, dans les rues. L'apartheid, c'est la discrimination inscrite dans le droit. On n'a pas en France l'apartheid. On a connu, beaucoup de gens ont oublié ce que c'était que l'Afrique du Sud, Mandela en prison pendant 30 ans. Beaucoup de jeunes Français ne savent même pas que ça a existé ailleurs, ne connaissent même pas ce qui s'est passé dans les discriminations, ségrégations et un peu d'apartheid dans les pays, dans les colonies françaises. Bon. Mais l'islam est mis en cause. Or, certains pensent que c'est la radicalisation de l'islam. Heureusement, il y a des sociologues qui ont dit non. C'est peut-être l'islamisation de la radicalité. Et ça, je l'ai vu. Un jour, il y a un garçon qui était un jeune un peu délinquant, pas très grave, un jour, tout blanc et rose, hein, il devait être normand, qui me dit « Oui, moi j'en ai, je peux vous le jure par le Coran de la Mecque. » Je dis « Pourquoi vous jurez par le Coran de la Mecque ? Vous êtes musulman. » « Ah non, mais j'ai des amis qui m'ont expliqué. » Je dis « Mais c'est formidable, ça, vous connaissez la différence entre le Coran de la Mecque et le Coran de Médine ?» Il se trouve, moi, je connais un peu l'islam, et puis j'ai vécu toute mon enfance en Algérie, donc pour moi, les Arabes et l'islam, c'est pas très étranger. Il me dit « C'est quoi Médine ?» Ah, je vous connaissais pas, vous savez pas ce que c'est que Médine ? Vous connaissez l'histoire du prophète ? La Mecque, Médine, non ? Pourquoi ? Et commencez à lui raconter un peu. Il dit « Mais c'est intéressant, ça. On me l'a jamais dit. » J'ai dit, mais qui vous a parlé? Ah ben parce que voilà, c'est... Ce garçon était évidemment malade. Il était un jeune délinquant, il était tombé sous l'influence de jeunes... Oh, je ne sais même pas. Il était devenu pas musulman, mais il invoquait l'islam, fantasmé, etc. Or, quel est le problème?
Ils sont peut-être nombreux en ce moment.
Pas très, mais les Français
découvrent...
À subir
ce genre de contagion.
Les Français découvrent avec stupeur et malaise qu'il y a un certain nombre de jeunes Français, double nationalité ou pas, de jeunes Français, qui ont été à l'école en France, sauf s'ils ont été déscolarisés, sauf si, comme beaucoup de gosses que j'ai vus, ne sont pas des gosses déscolarisés, mais des gosses qui n'ont jamais été déscolarisés. Sauf si ces jeunes n'ont aucune perspective d'emploi. Sauf s'ils sont tellement discriminés qu'ils n'osent même parfois plus sortir de chez eux. Sauf si leur famille n'existe pas, car beaucoup de ces jeunes, ce sont des jeunes qui n'ont pas de père, qui ont des familles monoparentales, qui ont une mère. Généralement, il y a toujours une mère. Les mères sont formidables. Les pères sont un peu moins là. Bon. Et ces jeunes-là, ils peuvent être pris par n'importe quelle idéologie folle, si elles rencontrent non pas leur folie, mais leur malaise. J'en ai vu des comme ça. Et il est évident que c'est un problème de la France. C'est pas un problème uniquement...
De la Belgique aussi, hein.
De la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de tous les pays dans lesquels il y a une immigration importante. Sauf que, en Allemagne, l'immigration d'origine, pays musulman, elle est turque. Et depuis toujours, l'organisation des immigrations des Turcs, y compris dans le système antérieur qui s'appelait Gastarbeiter, travailleurs hôtes en allemand, ça veut dire. Qu'en Belgique, alors à Belgique, on en parlera une autre fois, mais en France, nous, on a été effectivement très accueillant à l'égard des gens de nos anciennes colonies. Pourquoi ? Parce qu'on a amorcé la pompe en faisant venir dès la libération, et ensuite dans les années 50, des mineurs marocains, des ouvriers algériens. Moi j'ai fait un stage chez Renault en 60. Autour de moi, sur les chaînes de montage chez Renault, il n'y avait que des étrangers. Enfin, il y avait quelques Français. Mais donc on a un problème de rapport à la population d'origine immigrée, et on a un problème de rapport à cette philosophie qui est fabriquée à partir de l'islam. L'islam qui est une religion de paix et de tolérance. Il y a une philosophie qui est montée comme autrefois il y avait pendant les guerres de religion, ou pendant les croisades, une philosophie qui transforme la religion en ennemi. Mais transformer l'islam en ennemi, c'est extrêmement dangereux, parce que le nombre de musulmans qui sont au contraire des bons Français, qui sont aussi des musulmans bon, pas très pratiquants, comme beaucoup de catholiques ou de protestants en France qui sont pas très pratiquants, mais ils sont plutôt d'une culture musulmane que d'une pratique culturelle musulmane. Et ces gens-là, on peut arriver avec l'idée de guerre, avec le thème de la guerre, on peut arriver à introduire dans l'esprit des gens les plus fragiles l'idée de guerre civile. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre qui a lieu sur notre territoire ? Ah non, c'est les étrangers qui nous attaquent. Beaucoup de gens aujourd'hui au pouvoir, je pense au président et au premier ministre, ne savent pas ce que c'est qu'une guerre. Tant mieux pour eux. Ils n'ont jamais vu de guerre. Ils en ont entendu parler à peine. Ceux qui savent ce que c'est une guerre, Une guerre, c'est pas quelques centaines de victimes d'attentats criminels. Une guerre, c'est des milliers de morts, des dizaines de milliers de maisons détruites, des centaines de milliers de personnes déplacées. Il y a la guerre en Syrie, il y a eu la guerre en France, il y a eu la guerre en Allemagne. La guerre, on sait ce que c'est en France. C'est autre chose. Ce qu'il y a en ce moment, ce n'est pas une guerre. C'est une attaque terroriste qui a une dimension internationale, qui prend des formes de guerre sur certains territoires en se parant du nom d'État, et qui en France est une action terroriste. Et les Français ont beaucoup de mal à faire face à la terreur. Pourquoi ? Parce que c'est un mot ambigu. Quelle est la plus grande période de la Révolution française ? Robespierre, Saint-Just, la mort du roi, c'est la terreur. Qu'est-ce que c'est que ce rôle de la terreur dans la vie politique ? Pourquoi est-ce que les Français ne le regardent pas en face ? À savoir que quand il y a pratique de terreur, assassinat de masse, centaines de têtes coupées sur la place de la Concorde, c'est quand on est dans une phase de transition politique très grave. Le monde arabe est dans une phase de transition politique très grave. Il secrète des terroristes, comme la France a secrété des terroristes. Le monde arabe n'est pas plus terroriste que la France de 1793. La France de 1793 a fini par se débarrasser de ces terroristes. Hein, on l'a fait nous-mêmes. Robespierre, il a la mâchoire défoncée, c'est injuste. Mais le monde arabe n'est pas un monde de terroristes, c'est un monde de paysans, d'artisans, d'ouvriers, de gens honnêtes, respectueux, amicaux, et qui vit dans une philosophie qui est au fond très proche de celle du judaïsme, du christianisme, du bouddhisme, c'est-à-dire on ne doit pas tuer, on ne doit pas voler, on respecte ses parents, on protège les enfants, tout ça, c'est l'islam courant. Eh bien, le terrorisme est une affaire qui nous vise, mais une terroriste qui est née dans des sociétés qui a été soumise à des dictatures. Pourquoi est-ce que c'est des pays dictatoriaux que vient le terrorisme ? Pourquoi est-ce que des pays dictatoriaux comme l'Arabie Saoudite a financé depuis longtemps les principaux artisans organisateurs du terrorisme ?
Et continuent à le faire, y compris sur notre territoire.
Et continuent à le faire, et reçoivent
pour notre soutien.
Didier Fassin, et avec notre soutien.
Notre soutien, celui des États-Unis, etc. Je pense que cette discussion sur la terreur et le terrorisme est intéressante, mais je ne parlerai pas de terroristes à propos de Robespierre et de Saint-Just et de leur des autres révolutionnaires de cette époque, mais au fond c'est intéressant de s'interroger sur la question de la terreur et même de la désignation comme terroriste, puisque si on parle de ces personnes qui ont tué 130 personnes au Bataclan, dans des cafés, au Stade de France, etc. Et donc on les appelle terroristes, on lit ça à la terreur, et donc il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est que cette terreur, qu'est-ce qu'elle produit. Or, il me semble que là où le terrorisme échoue, c'est à provoquer véritablement la peur, même si bien sûr dans un premier temps on utilise des termes comme effroi et c'est bien sûr tout à fait compréhensible, mais il échoue à provoquer, je crois, des réactions de peur. Regardez, les gens aujourd'hui vivent tout à fait normalement à
regardez,
Paris, même à Bruxelles.
En Belgique, voilà. La manière dont on n'a pas édicté l'état d'urgence.
Alors justement, c'est là que j'allais en venir, c'est que ils échouent à provoquer la peur, ils réussissent à provoquer une politique de la peur. Mmh. Et au fond, c'est ça qui est véritablement le problème. Et c'est là où on voit que la France est le pays dont le gouvernement a été le plus vulnérable aux attaques terroristes. Pensez à ce qui s'est passé à Madrid il y a quelques années. Pensez à ce qui s'est passé à Londres il y a quelques années. Il y a eu à peu près autant de morts. Il y en a eu un petit peu moins à Bruxelles, mais malgré tout, le choc était de même ordre et des actes qui ressemblaient. Eh bien, dans chacun de ces cas, les gouvernements n'ont pas pensé que l'état d'urgence était ce qu'il fallait proclamer, que des lois d'exception ne devaient pas être immédiatement non seulement proposées, mais même proposées à la constitutionnalisation. Mmh. Hein. C'est-à-dire que on a eu dans d'autres pays, sous des régimes de droite comme sous des régimes plutôt de gauche, si on peut appeler les années Blair des années de gauche, on a eu des réactions qui laissaient plus de place à la démocratie, au peuple. Regardez à Bruxelles, les gens ont pu manifester après, ils ont pu manifester leur solidarité entre eux, ils ont pu manifester leur rejet de la violence. En France, tout ça a été étouffé. par des lois par l'application d'un état d'urgence dont tout le monde sait, y compris celui qui est devenu notre garde des Sceaux, mais qui auparavant était le président de la commission des lois à l'Assemblée, que ces mesures n'avaient pas d'efficacité autre que de rassurer, ou pense-t-on de pouvoir rassurer la population. J'avais écrit un article pour une tribune pour Le Monde. Le titre en a été changé, mais le titre initial, c'était « Un si paisible état d'urgence ». C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que une telle proportion des Français sont derrière l'état d'urgence, et alors une proportion encore plus élevée de leurs députés.
Ça nous rassure, entre guillemets.
Ça nous rassure et ça ne nous touche pas. Ce que ça touche, ce que vous voyez se faire mettre sur le côté dans les stations de RER ou les gares, eh bien, c'est pas vous et moi. Ce sont justement des personnes qui sont identifiées en fonction de leur apparence, de leur couleur, de leurs vêtements éventuellement. Ceux pour lesquels on a fait des interventions dans leurs appartements, oui, ou dans leur mosquée, etc. Tout ça, ce sont les mêmes catégories. Donc, on a un si paisible état d'urgence parce que il ne nous touche pas, il nous rassure et il vise des fractions de la population qui sont déjà des fractions fragilisées et de façon tout à fait discriminante.
Justement, tout à l'heure...
Pierre Jox, conclusion.
Tout à l'heure, vous me demandiez ce que je ferais si j'étais ministre de l'Intérieur. Cazeneuve, que j'estime beaucoup, il participe à la politique du gouvernement. Bon, ce qu'il pense des différentes lois qui sont arrivées, c'est pas à moi de vous le dire. Mais Cazeneuve, dès la mise en place de l'état d'urgence, quand il y a eu les premières bavures, il a fait une circulaire pour dire « Attention, la perquisition, ça ne veut pas dire qu'on enfonce la porte avant d'avoir sonné ». Cazeneuve, dès qu'il y a eu cet incident, mais terrible quand même, qu'il n'y a pas de fin tragique, de ce gosse qui a reçu des coups alors qu'il était déjà maîtrisé par Cazeneuve, dans les 2 heures qui ont suivi...
Là, vous parlez de la manif d'il y a 10 jours.
Dans les 2 heures qui ont suivi, il a dit, il a eu les mots justes, disant, c'est pas comme ça que doit se conduire la police dans un pays républicain. Parlant d'une bavure ou d'une erreur d'un fonctionnaire, etc. Quand on corrige, quand on critique, comme je l'ai fait moi-même à plusieurs reprises, l'erreur, la bavure, la faute d'un fonctionnaire, on renforce les 100 000 autres. Et Cazeneuve, ça, il le fait bien. Pour le reste, la politique globale du gouvernement, c'est pas tellement de lui que ça dépend, franchement. En revanche, je me rappelle sur les interventions à l'étranger. Jamais une intervention militaire étrangère n'a établi la démocratie nulle part. Et quand Le Drian m'a dit, il y a déjà maintenant un bon moment, en intervention au Mali, nous allons rétablir l'ordre au Sahara et nous allons rétablir l'état de droit au Mali, je lui dis, mais mon pauvre Jean-Yves, il n'y a jamais eu d'état de droit au Mali, il n'y a jamais eu d'ordre au Sahara, et c'est pas vous qui le ferez jamais. Et là, il y a une réflexion sur le rôle des interventions à l'étranger qui rejoint ce que disait Fassin il y a un instant.
Didier Fassin, un dernier mot. Donc oui. le long terme, une politique à long terme.
D'abord, les mots de Bernard Cazeneuve sont, sur des bavures sont bienvenus. En même temps, on est là dans de la communication. À côté de ça, on a un ministère de l'Intérieur et la direction de la police nationale qui a explicitement, en l'écrivant, considéré que les événements récents étaient le bon moment pour passer des lois qui élargissent encore les pouvoirs de la police, qui réduisent un peu plus la part du judiciaire. Donc on peut avoir d'un côté de la communication, de l'autre, avoir un travail de fond qui va exactement dans le sens inverse. Autre temps, autre mœurs, Pierre Jox a été, je crois, celui qui a proposé un code de déontologie à la police.
Pas ça n'est proposé. Édicté.
Imposé.
non. Mise en place. On est là dans une autre, dans une autre séquence historique, dans laquelle cette déontologie, ces préoccupations de long terme justement, ces préoccupations qui ne sont pas immédiatement pour monter dans des sondages, pour répondre à une supposée opinion publique, mais au contraire participer des mouvements de fond. Pensons quand même que dans les années 80, lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur, il y avait aussi un ministre de la Justice. justice, qui a diminué le nombre de personnes dans les prisons, qui a amélioré certaines des conditions carcérales, qui a supprimé la peine de mort. Donc il est possible, et c'était en partie contre l'opinion publique, il est possible d'avoir des politiques de long terme, des politiques courageuses. Ça n'est pas celle que nous avons aujourd'hui en France.
Merci beaucoup, merci Pierre Jox et merci Didier Fassin. Laissez-moi vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire vos ouvrages. J'en rappellerai que deux pour chacun parce qu'il y en a beaucoup. Pierre Jox, Soif de justice et cas de conscience. Et Didier Fassin, L'ombre du monde et la force de l'ordre.
Je suis une bande ethnique à moi tout seul. C'est écrit sur ma gueule. Voyou, barbare, intégriste, casseur, terroriste, salopard, sauvageon. Est-ce que le compte est bon? Toujours à 40 000 quand les rats sortent des bidonvilles avec des bidons d'huile. Ces trois équipes de télé tout au plus, caméra au point, qui m'attendent à l'arrêt de bus, qui sont les vrais stars du JT, les gentils condés ou les grands méchants noirs. Il va falloir se décider, car mon casier judiciaire a horreur du vide. Un peu comme moi d'ailleurs, qu'y a-t-il de bizarroïde? Je suis une bande ethnique à moi tout seul. Putain, c'est écrit sur ma gueule. Un cordon sanitaire dressé autour de mon CV. Et ouais, y'a de quoi s'énerver. Y'a de quoi s'énerver.
À moi tout seul, je suis une bande ethnique. Égorgeur de bêtes à poils laineux, la lame passée au feu. Sale tic a juré à tout bout de champ. Pour des broutilles ou sur l'honneur de ses parents. Nom, prénom, claque, au fond de la gorge. De sorte que la BAC t'aime à bras le corps. Alors, qu'elle orne sur le coffre les tracts qui traînent. Manif contre le maire d'un malin vide la haine. Je ramène toute ma culture de gâteau repeu. A la hic, vas-y partage, fais pas le var creux. Et le cheveu, harash qui affole la signalétique. Affiche ma bande ethnique.
Toujours ce regard aussi noir que méfiant, hein. Non pas du genre fuyant, mais plutôt horrifiant. J'ai ses doigts, ses mains qui marchandent. Je traîne, qui baffe, mais jamais ne demande. Sans compter cette grande gueule, je suis bon qu'à jacter. Brailler, brailler, insulter, becter. Ses pieds qui ont couvert de la distance. Obligé de courir encore plus vite que les flics. Je pense avoir ce cocktail du parfait Morico. Pour m'écarter des clichés tropicaux. Banania, oui, buana, c'est comme ils veulent, hein. Je suis une bande ethnique à moi tout seul.
Merci à Jean-Baptiste Audibert, à Florent Beauvallet, merci à Michel Billou et Ophélie Vivier. Et après le prochain flash de la rédaction, vous retrouverez comme chaque samedi Denis Chessou pour CO2, mon amour.